c'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Bonjour, la puce à l'oreille aujourd'hui est à Paluel, à Écoland, où nous allons vous présenter ce site à découvrir pour pouvoir prendre pleine conscience de nos comportements et de nos impacts environnementaux dans les gestes du quotidien. Écoland, nous y sommes, à Paluel, au cœur des marais de la Sensée, avec Perrine.
Ici, on est dans le super adobe d'Écoland, dans la réserve en fait, partie réserve. Donc le super adobe, le bâtiment, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un bâtiment qui est fait en sac rempli de terre non végétale. Donc il y a 120 tonnes de terre autour de nous qui forment la structure du mur. Donc avec des pneus en dessous pour les soubassements, remplis de cailloux, voilà. Et puis et sur ces murs, on a fait un torchis voilà, à l'ancienne, comme vous pouvez voir, donc intérieur, extérieur.
C'est quoi exactement Écoland ?
Écoland, c'est un endroit où voilà, on souhaite travailler sur un avenir avec une consommation moindre. Un endroit où on peut s'amuser, où on vient faire du tourisme et où on vient découvrir un mode alternatif, enfin un mode de vie alternatif.
C'est idéalement situé, le cadre est magique.
Ouais, c'est vrai qu'on est en face des marais de Paluel, dans un biotope, c'est magnifique. Il y a des animaux, il y a la faune et la flore qui sont vraiment, vraiment extraordinaires, avec un coucher de soleil tous les soirs, voilà, sur la terrasse.
Et c'est dans le Douaisy, on arrive encore, il faut réapprendre à s'émerveiller de ces choses-là.
Oui, tout à fait. Nous aussi, c'est aussi un objectif de tourisme local. Donc les gens, en fait, c'est une petite bulle de bien-être et de détente, de relaxation et de tourisme vraiment local. Il y a des gens qui habitent pas loin, qui viennent découvrir ce site et ouais, qui est méconnu pour certains locaux finalement.
L'aventure, elle est pleine de sens. C'est également une aventure de bâtisseur. Vous êtes improvisé maçon, maçonne, tous ensemble.
Oui, c'est vrai qu'on n'était pas, du domaine du tout. On a cherché en fait plein de techniques de construction alternatives. On a choisi celle qui nous intéressait le plus pour démarrer, bien qu'il y en ait plein d'autres, hein, Interpaille, etc., qu'on n'a pas encore travaillé. On s'est improvisé, on a appris tous ensemble, on a accueilli plein de monde que ça intéressait. Ils sont venus participer au chantier dans un élan vraiment de découverte de construction ensemble. On a appris tous une technique avec des professionnels du bâtiment. Et puis l'objectif, ouais, c'est d'apprendre d'autres techniques. Là, en fait, le super adobe, il est fait de terre. L'objectif, c'est que dans le plus longtemps possible, il retournera à la terre avec une moindre pollution, en fait, vraiment, voilà.
C'est-à-dire que tout de suite, on pense au recyclage de l'ensemble, à une circularité.
Oui. Oui, voilà. Alors c'est sûr qu'on a utilisé des pneus pour les soubassements. Les pneus en soi, sous terre, ne polluent pas. Là, on a réutilisé des choses qu'on a du mal à recycler. Donc ça, c'est parfait. En plus, c'est antisismique ici pour le super adobe. Dans un environnement où il y a de la tourbe, etc., c'est vraiment génial. Et ensuite, donc, tout ce qu'on a utilisé, que ce soit bois, terre, voilà. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser les matériaux locaux, les matériaux les moins polluants possibles et qu'on a sur place, voilà.
Le bâtiment aujourd'hui, il est quoi autonome en énergie, il y arrive ou
Alors ça, c'est l'objectif à moyen terme, j'espère. À savoir que le Super Adobe, c'est un bâtiment ERP, donc établissement recevant du public. On ne peut pas faire non plus, pour démarrer au niveau de l'eau, on est relié encore au circuit classique, l'électricité également pour les normes. Mais après, oui, l'objectif, c'est de tout mettre en autonomie, donc recycler l'eau au niveau de l'ELEC, chercher des techniques alternatives également. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé une association, donc Graines d'Évolution, qui est née cette année, qui va se développer et qui est vraiment montée pour la partie technique et la recherche low-tech.
Vous avez mis dans la boucle des artisans locaux afin de les sensibiliser finalement à pouvoir penser de façon différente et pas forcément importer les matériaux de l'autre bout du monde pour construire de façon autre.
Oui, on a mis dans la boucle des artisans qui étaient... C'est vrai qu'au début, construire avec la terre, avec le torchis, au final, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup avant. Mais là, on est revenu à ça. Et pour tout ce qui est l'électricité, etc., ça a été un peu compliqué d'intégrer ça dans le... Enfin, pas compliqué, mais ça a été... C'est pas courant. Au niveau... de la menuiserie, de la charpente, etc. Alors là, on avait besoin d'une surface un peu plus, un peu grande quand même, 100 mètres carrés pour le super adobe. La toiture reste classique en soi, mais néanmoins au niveau de la charpente, ouais, il a fallu travailler un peu différemment aussi. Et ouais, c'est ce qui fait tout le charme aussi du travail ensemble avec les artisans qui sont bien adaptés. Et que, enfin, c'est génial, quoi. Ça a été du donnant-donnant à tous les niveaux.
Écolande, c'est une aventure collective, participative. C'est également aujourd'hui quelque chose d'ouvert au public avec une offre de prestations, de nuitées, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Donc on a une offre touristique. Donc on a 6 hébergements, dont 2 qu'on a vraiment construits nous-mêmes. Donc le conteneur maritime qu'on a réaménagé, on a retravaillé là. Ouais. On a travaillé aussi en équipe là-dessus, avec donc de la même manière du recyclage, des matériaux les moins polluants possibles. On a la carter, la petite carter bretonne, donc technique de chaux et chanvre. Voilà, on a trempé les mèches de chanvre. Pareil, on a fait ça sous forme de stage avec un formateur de carter directement pour voilà. C'est une technique très particulière, donc on a fait ça en groupe. Et ensuite on a de l'hébergement léger, donc tipi, yurt, bulle. Là on est sur le voilà, dormir dans la nature, expérimenter vraiment quelque chose de très particulier et relaxant. Et la tiny house qui est répandue maintenant. Donc là on est sur le minimalisme, vraiment travailler vivre dans un petit endroit avec le moins de choses possible. Donc tout ça c'est dispo à la location. Et puis après, on a aussi la partie pédagogique. Donc on souhaite accueillir beaucoup de monde et on souhaite aussi travailler avec les enfants, les scolaires, au niveau du jardin en permaculture. Donc pour essayer de changer les choses à notre échelle, ça passe beaucoup par les enfants. Et ça, c'est génial parce qu'ils arrivent ici au jardin, faire des petites animations, des activités, apprendre un petit peu sur le jardin. Et puis être en contact avec les animaux qu'on a sur le site.
Qui vient faire dodo ici ? Ce sont des locaux, ce sont des régionaux, des gens qui ont besoin d'exotisme un petit peu à portée de main ?
Oui, bah c'est un petit peu tout ça, tout ce monde-là qui se mêle. Et c'est ça aussi qui fait la particularité. Et les rencontres ici sont étonnantes. Hein. Ça peut être vraiment les locaux qui viennent passer une journée, passer un moment. Dormir ici, ça attire au niveau régional et national aussi. Et international, puisqu'on est on est placé dans un triangle intéressant où on a aussi les Anglais, les Allemands, les Hollandais qui viennent passer une nuit, souvent qui descendent aussi ailleurs. Mais ça va jusqu'à l'international, donc encore à développer, mais c'est vrai que c'est chouette. Ça mêle beaucoup, beaucoup de monde. Et oui, la surprise, c'est... Enfin, pour nous, les locaux qui viennent, même si justement c'est notre but, mais ils viennent passer une nuit pas loin de chez eux pour être déconnectés vraiment du quotidien et de leurs habitudes.
Vous arrivez à mesurer votre impact carbone. Est-ce que vous faites des choix, justement, en conséquence, pour la limiter ? Est-ce que vous la mesurez ?
Pour la mesurer, c'est encore un petit peu compliqué. On est tout nouveau, on vient d'ouvrir en juin dernier. En fait, tout ce qu'on fait, on le fait vraiment en conscience. On essaie de travailler avec les producteurs locaux pour la partie restauration. On cueille les légumes du jardin aussi pour la resto, donc ça c'est top. Et les gens qui viennent manger savent que ça vient d'ici. Une voie cueillir les légumes, voilà. Et pour tout le reste, ouais, on essaie de travailler en conscience. Il faut qu'on mesure en fait notre consommation d'eau, d'élec, etc. Donc ça, ce sera fait prochainement. Après, on est en toilette sèche, ça j'en ai pas parlé. Donc toilette sèche dans les hébergements, ici dans le bar. Donc là, évidemment, c'est un circuit, tout est réutilisé. On commence à vraiment mesurer les économies d'eau à ce niveau-là. Parce qu'on peut mesurer le nombre de personnes qui sont passées au sanitaire, hein, et voilà, le nombre de chasses d'eau économisées, c'est énorme. Et par exemple, pour les enfants qui viennent dormir ici, donc les colonies, les colonies de vacances, on a installé des douches solaires aussi. Et ça, c'est top parce que ça apprend les enfants à gérer leur conso d'eau. Ils vont chauffer ça au soleil, et puis après, c'est vraiment ils peuvent aussi, à leur échelle, mesurer combien d'eau ils consomment, et puis la faire chauffer eux-mêmes.
On ne vient pas jouer aux Indiens, on vient réfléchir.
Oui, Oui, c'est tout l'objectif. Hein, de... Alors, on mettra en place au fur et à mesure. Nous, on travaille sur ces techniques parce que finalement, nous, on s'adapte aussi et on travaille là-dessus. Donc, petit à petit, on met en place, nous, ce qu'on souhaite pour notre mode de vie. Et puis, on le partage avec les gens. Donc, ce soit au niveau de, de toutes les énergies et même de la manière de cuisiner. Donc là, avec une marmite norvégienne, etc. Donc, tout ce qu'on veut mettre en place, le mettre dans nos modes de vie et puis le partager avec les gens. On réfléchit aussi, à la pollution, forcément, à tout ce qu'on consomme et à consommer mieux, local, et puis et moins, finalement, parce qu'on a énormément de choses superflues, on consomme beaucoup de superflu et c'est tout l'objectif de faire repenser tout ça.
Au bout de moins d'un an d'existence, économiquement, on en est où ? C'est viable ? C'est dans les chiffres ? On en vit de ça ?
On est une toute petite équipe. Donc finalement, on ne peut pas dire qu'on en vit aujourd'hui parce que forcément, au niveau financier, on a dû faire appel à des banques équitables, à la nef, etc. Donc qui nous ont aidés là-dessus. Et puis on ne peut pas dire qu'on en vit tout de suite aujourd'hui, après un an. Mais néanmoins, c'est en bonne voie. Nous, on consomme beaucoup moins, donc finalement, on a besoin de moins. Et on vit ici très bien avec ce qu'on a, oui.
Paraissez heureuse et épanouie.
Ah oui. Nous, ça a été un grand changement de vie.
C'était quoi votre vie avant ?
Alors, notre vie avant, c'était, pour ma part, dans les ressources humaines. Donc, domaine qui était hyper intéressant humainement, socialement. C'est vrai que pour moi, c'est un voyage au Mexique où j'ai travaillé dans le tourisme et un mode de vie totalement différent de ce que je pouvais avoir en France, plus en communauté, plus avec moi aussi, parce que ça reste un pays assez moins aisé qu'ici, puis où je vivais beaucoup plus avec la nature aussi finalement. Et c'est ce que je voulais retrouver ici, et c'est pour ça que ça, en mêlant, on avait envie d'un autre mode de vie aussi, hein, forcément. Et donc en mêlant tourisme, pédagogie, écologie, c'était ce qu'on recherchait à la base. Et là, on l'a vraiment trouvé et c'est du bonheur tous les jours, oui.
De quoi avez-vous besoin aujourd'hui ?
On a besoin de contacts, de relations humaines. On a besoin de vivre simplement, en fait. On est ici, on reçoit du monde qui vient un petit peu partout. On est ici avec les animaux. Enfin, ça, c'est vrai que le contact animalier, c'est vraiment quelque chose à part que on peut vivre qu'ici. Avant, on était en appartement, donc forcément, c'était pas possible. Et puis, on a besoin de partager ça et on a besoin vraiment de faire toute la partie recherche pour vraiment aboutir au projet où on veut aller. Donc sur la partie low-tech notamment, et puis réussir à trouver l'équilibre entre tout ça et se sentir vraiment en accord avec la nature, avec ce qu'on a pu... En fait, on voudrait retrouver un mode de vie qui est plus viable forcément par le fait de vivre avec moins de choses, avec les locaux, et réussir vraiment à s'échapper de... Alors du consumérisme, on l'a déjà bien fait, mais l'objectif à terme, c'est viser l'autonomie. Hein.
C'est réplicable ? Ailleurs, dans d'autres territoires ?
Complètement. C'est vrai que sur certains aspects, ça paraît compliqué, parce qu'on ne peut pas non plus trouver... On a eu de la chance, de pouvoir monter tout ça avant le Covid. Mmh. Donc il y a des éléments, des biens qu'on a fait venir. Enfin, je pense aux conteneurs maritimes, etc. Donc ça vient de pas très loin, mais il y a quand même des choses qu'on ne pouvait pas trouver vraiment à moins de 10 km, forcément. Mais dans un esprit de recyclage et de faire au mieux pour consommer moins, on peut le faire, on peut y arriver, bien sûr.
L'objectif, c'est que ce ne soit pas un site pilote, mais que ça devienne quelque chose de normal.
Oui, c'est s'aimer un petit peu partout. Ça a déjà bien commencé hein, au niveau national, mondial. Il y a beaucoup de sites où on peut trouver un petit peu. Alors nous, on est passé plutôt par le côté touristique ici. Enfin, l'entrée est touristique pour découvrir tout ça derrière. Et ça fonctionne bien. Le fait d'attirer les gens à découvrir tout ça, c'est vraiment une volonté de notre part, que ce soit même les toilettes sèches ou la phytoépuration. C'est des choses qui ne sont pas encore très courantes, mais oui, justement, on voulait faire découvrir à tout le monde facilement. Ici, tout le monde peut venir juste pour boire un verre ou alors passer une semaine, un mois avec nous. Il n'y a pas de souci. Oui, l'objectif, c'est vraiment de développer ça.
Je vous laissais travailler. Ça reste du travail.
Ah, ça reste du travail. Hein. Ça, c'est sportif. On adore, hein, on agrandit l'équipe en saison, forcément, puisque c'est une saisonnalité assez importante. Mais c'est du travail hyper agréable, hein, ça c'est sûr.
Et l'on retourne dans un instant à Écolande dans la puce à l'oreille et nous serons cette fois-ci avec Thomas. cœur des marais de la Sensée. Nous sommes à Écoland avec Thomas.
Alors pour nous, Écoland, c'est un monde parallèle bien réel. Donc en gros, on essaye de créer une alternative au modèle actuel. Un modèle qui serait soutenable sur du très long terme au niveau de la planète et de tous ses habitants. Et l'idée, c'est de le construire dès maintenant et de le transmettre au public de manière fun et ludique.
Alors, soutenable, c'est-à-dire ne pas épuiser les ressources, j'entends bien, mais est-ce que l'équilibre économique, parce qu'on nous dit toujours, voilà, on ne peut pas faire abstraction de l'économie aujourd'hui dans ce monde, ouais. Est-ce que l'équilibre économique, c'est quelque chose d'important dans le projet ?
Oui, bien sûr, évidemment, il y a toujours les deux extrêmes entre les gens qui ont peut-être parfois trop de bonnes intentions, mais qui dépendent de subventions publiques ou etc. Et il y a, de l'autre côté, on a entre guillemets les capitalistes qui pensent qu'à l'argent, mais pas au reste. Et du coup, en fait, il faut réussir à concilier les deux, c'est ce qu'on essaye de faire. Et je pense que c'est plus une question de mode de vie, d'habitude, de mode de vie. Plutôt que de questions économiques, quoi. Parce qu'en plus, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher de construire en terre. Là, on est dans un bâtiment qui fait 130 tonnes de terre. Et en fait, bah, ça coûte beaucoup moins cher que le béton. Les impacts en CO2 sont bien meilleurs. Idem avec nos toilettes sèches, VS des réseaux classiques et faire nos besoins dans de l'eau potable pour la retraiter après, etc.
Dans le projet, pour le définir, on le définit comment ? En disant ce qu'on veut faire ou en s'interdisant ce qu'on ne veut surtout pas faire ?
Ah, bonne question. Bah nous, justement, on essaye de proposer une infrastructure où, en fait, on ne perde pas de confort. Parce que les gens disent souvent ça peut être un retour en arrière, etc. Nous, on essaye de travailler pour que, justement, on ait tout le confort moderne, entre guillemets, avec forcément des petits ajustements sur les modes de vie. Et on fait beaucoup de pédagogie là-dessus avec des panneaux explicatifs ou en parlant aussi, en expliquant. Mais on peut tout à fait vivre de manière soutenable en changeant nos habitudes, quoi. Un petit peu.
C'est plus facile de le faire en s'interdisant des choses ou en se forçant à faire autre chose ?
Bah en fait, il faut faire autrement, quoi. C'est surtout ça. Ouais. Il faut faire autrement et ça dépend comment on voit les choses, quoi. Par exemple, un toilette classique vs un toilette sèche, au final, c'est la même chose. Mais on est habitué à ça. Pareil au niveau de la viande et tout. Alors c'est pour ça qu'on essaye d'avoir des vraies statistiques scientifiques à ce niveau-là. Par exemple, pour que la planète serait soutenable avec toute la population, il faudrait que tout le monde consomme en moyenne 2 tonnes de CO2 par personne. En France, on est à 9 tonnes là. On voit le jour du reculement, du dépassement, il arrive en juillet, mais au niveau mondial, en France, on est en mai. En 3 mois, on a bouffé toutes les ressources. Donc, si on consommerait comme un gars du Bangladesh, ça serait 0,45 planètes. Un gars du Qatar, ça serait 8 planètes. Nous, on est à 4 planètes. Donc, en fait, c'est un équilibre mondial, forcément. Forcément, les 1% les plus riches consomment presque la moitié des ressources. Idem pour les grosses entreprises. Donc, là, il y a un impact. Là, on va dire que c'est sociétal. Donc, on n'a pas la main dessus. Mais du coup, nous, on a la main sur notre façon de vivre. Et on fait ça d'une part. Pour ça, parce que dans tous les cas, on va y être obligé. Parce que là, on a 3 ans pour inverser la courbe carbone. Sinon, on arrive sur un climat qui n'est plus viable. Donc, dans 10 ans, on y est, quoi qu'il arrive. Donc, on fait ça d'abord pour ça et aussi pour nous. Parce que même de manière égoïste, on va dire, soit se prendre le crash en pleine tête, et comme le jour du Covid où il n'y avait plus de PQ et tout le monde soit en galère, ou soit on vit déjà autrement, on n'en a plus besoin le jour où il n'y en a plus. Et nous, on essaye de travailler là-dessus, et le jour où il n'y aura plus de ressources, en fait, on n'aura plus besoin, on aura déjà fait autrement. Et notre but, c'est d'être d'accompagner un maximum de personnes là-dedans, ceux qui le veulent.
On va parler du cadre ici, on est au cœur des étangs de la Sensée. Ouais. C'est un espace naturel sensible.
Ouais.
Ça faisait sens que de s'installer ici ?
Ouais, complètement. C'est vrai que c'est un peu le destin, on va dire, ou pas le fruit du hasard, mais la vie du projet qui nous a amené ici. On n'a pas spécialement choisi. C'est d'abord un appel à projet avec la région sur les modes de vie post-carbone, vivre ensemble en 2030. Dispositif Inspire de la région qui avait lieu au CUA, donc Communauté Urbaine d'Arras. On a travaillé 9 mois sur une parcelle dans la Communauté Urbaine d'Arras. Après, pour des raisons principalement techniques, on n'a pas été au bout de cette proposition. C'était trop compliqué. Du coup, on a cherché d'autres terrains. On a cherché un peu partout, même sur le Bon Coin, même dans d'autres régions. Et c'est via du coup des connexions avec les instances politique, on va dire territoriale plutôt, le maire de Paluel, le vice-président des artistes Stéphane Comble, en fait, où ils étaient intéressés par le projet. Le maire de Paluel avait par hasard le camping, là, l'ancien camping municipal à faire reprendre en gestion parce qu'il était squatté, etc. Et en fait, c'est un lieu vraiment idéal, quoi. Donc nous, on est face à un marais de 100 hectares en plein cœur d'une zone de 4000 hectares de marais et de forêts. Avec, j'ai plus une dizaine d'espèces protégées, etc. Donc, c'est vraiment idéal, comme si le projet avait été pensé pour être ici, alors qu'en fait, non.
Tu le connaissais, cet endroit, avant qu'on t'en parle ?
Un petit peu, ouais, parce qu'en fait, j'avais une copine de fac qui habitait à Arleux. Et une fois, j'étais à son anniversaire et je suis passé devant le marais. Et c'est très drôle, parce qu'en fait, j'avais un peu l'œil de repérer les spots. Avant, j'étais directeur de séjour de vacances. Donc, on se baladait en minibus un peu à la scout avec des jeunes. Et puis, dès qu'on avait l'œil pour se trouver un petit endroit sympa. Et du coup, j'avais vu comme ça, j'avais entreaperçu en voiture. Et à la fin de soirée, au début du matinée, on est venu se poser ici au bord du lac, mais quasiment devant le site, quoi. Et je me suis dit, ce serait tellement idéal, mais j'ai même pas pensé que ce serait disponible, en fait. Du coup, je ne l'avais pas dans mes champs des possibles, alors qu'en fait, du coup, finalement, on se retrouve ici.
Ouais. Et ça fait sens, finalement, parce qu'aujourd'hui, c'est pleinement intégré, quoi. On se dit que si on voulait regagner, finalement, la reconquête des espaces naturels, ouais. Voilà, il faudrait des petits écolandes sur le même modèle un peu partout.
Ah bah oui, complètement. Ça c'est... En fait, l'idée, c'est d'avoir un modèle viable, même quand je parle des modes de vie. En fait, on le fait de manière ludique et pédagogique via les logements insolites, les ateliers pédagogiques avec les scolaires pour un petit temps donné, comme si c'était un escape game de 2-3 jours, comme quand on est à l'étranger ou qu'on va en camping 2-3 jours. Mais en fait, nous, on travaille vraiment ces questions-là de manière pérenne. Donc, avec le labo de recherche Low-Tech qui va s'installer l'an prochain, via une association, on va accueillir toutes les forces qui veulent bien travailler dans ce genre, dans ce sens, expérimenter tout du moins, et potentiellement aussi réfléchir à la vie collective, la mode de vie un peu écolieux, quoi, mutualiser les ressources, mais il y a toutes des questions de gouvernance partagée, de mode de fonctionnement, et du coup là, ça devient un projet aussi d'organisation sociale, et là, on veut vraiment pas aller trop vite. On voulait faire une recherche là-dessus sur 2-3 ans, mais avec la gestion du site, on n'a pas eu le temps. Mais on va aller vers ça.
C'est-à-dire qu'on reste quand même dans l'idée d'un laboratoire. Il y a du test, il y a encore de la recherche, il y a encore du travail.
Ah ouais, complètement. Là, déjà, ce bâtiment dans lequel on est, là, on s'est inspiré de la technique Super Adobe, donc, qui a été inventée par Nader Khalili. Il a inventé donc, la technique de construction en sac de terre, mais à la base, c'est un long sac comme un boyau, en fait, qui vient faire un dôme, un peu comme une imprimante 3D, en fait, qui fait un dôme et après, on recouvre de torchis, ça fait des maisons dômes. Et en fait, nous, là, c'est un hybride, c'est-à-dire qu'on a pris la technique des sacs de terre pour faire les murs, mais c'est un ovale de 100 mètres carrés, 19 mètres de long sur 9 mètres de large, et on a mis une toiture bac acier isolé classique pour simplifier la mise en œuvre et faire une terrasse sur le toit. Et du coup, ça, c'est un hybride. C'est le premier de France qui passe les normes de construction avec une déclaration à l'urbanisme, permis de construire et ERP, établissement recevant du public. Donc du coup, c'est en soi une expérimentation et ça fonctionne. Là, on est dans les règles française et en même temps on reçoit du public, et l'idée ça va être de travailler là-dessus sur des petits habitats et aussi beaucoup sur les low-tech. Donc c'est un mouvement naissant d'ingénieurs engagés, on va dire, pour créer des systèmes pour vivre en autonomie de manière simple et durable et à très peu onéreux, accessible à tous, et on va essayer d'expérimenter ça, de faire des petits habitats passifs, autonomes, à moindre coût, etc.
Alors justement, on sait très bien que le rapport du GIEC que tu évoquais vient de tomber. Ouais. On a très peu de temps, on parle beaucoup de rénovation des anciens parce qu'on ne peut pas tout reconstruire. Oui. Mais aujourd'hui, il faudrait interdire des constructions qui ne répondent pas à des normes suffisantes. Tu as l'impression qu'on fait encore un peu du n'importe quoi alors qu'on pourrait faire autrement.
En construction ou...
Ouais, en neuf.
Ah oui, clairement. Oui, clairement. Après, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'urbanisme, mais après, c'est une question de bon sens. C'est sûr que... Il faut d'abord, je pense, rénover l'ancien ou isoler l'ancien et tout. Ça, c'est des chantiers importants. Mais de toute façon, ils ont déjà sorti la liste des choses à faire. Hein. D'abord, toutes les passoires énergétiques, etc. Et après, nous, on essaye de... On essaye de prendre une voie à très faible, voire à un impact carbone presque négatif, pour avoir une autre voie et puis pour aussi, entre guillemets, améliorer notre vie, améliorer le quotidien. Comme quand on est à l'étranger, par exemple, et qu'on vit... on va dire à l'africaine ou à la mexicaine, comme Perrine qui a passé un an au Mexique, ben, c'est pas le même confort, mais on vit bien en fait, parce qu'on vit différemment, et c'est un autre rythme, c'est une autre façon de fonctionner, et en fait, on essaye de trouver notre propre voie ici, quoi, en expérimentant petit à petit avec les gens qui sont autour de nous. Pareil avec l'école des Duxpé d'Arras, la Fertès, on a fait un projet au Sénégal en partenariat. Et bah, c'est l'un des voyages qui a changé ma vie, notre rapport au monde, au travail, au sens de la vie, de se dire est-ce qu'on doit aller bosser alors qu'au final, c'est malheureux à dire, mais c'est vrai, la France, on est dans les 20% les plus riches du monde, même au RSA, en fait, au niveau du confort matériel, purement par rapport à tous les autres personnes de la planète. Et du coup, on se dit, ça vaut peut-être plus le coup d'expérimenter, de trouver sa voie, d'aller voyager, parce qu'on risque pas grand-chose au final. On peut que retomber sur nos pieds, et après, on se donne plus d'aile à essayer d'autres choses. Et pareil, à ce niveau-là, le GIEC, justement, parlait des transports au niveau des impacts carbone, les 9 tonnes par personne. Là, il y en a une qui est pour les transports, et en fait, il préconiserait... Alors c'est pour ça que c'est bien aussi de vraiment faire la pédagogie, parce que les gens pensent, si on doit être entre guillemets écolo, on doit tout arrêter. Donc plus prendre la voiture, plus prendre l'avion, plus prendre de viande. C'est juste une question de ratio, en fait, de pourcentage. On n'est pas obligé d'aller à 100%, mais on peut aller à 20% par exemple. Et ça pourrait être viable. Par exemple, ils préconisaient d'interdire tous les voyages en avion de moins de 5 heures, parce que le train existe. Mais bon, là c'est une aberration, l'avion est moins cher que le train et c'est plus pratique. Normalement, enfin, il y a une réflexion là-dessus à faire, mais de le réserver pour les, on va dire, 15, 20, 30 ans, je crois que c'était un ou deux longs courriers par vie, et principalement pour des jeunes avec un but de voyage culturel ou humanitaire qui serait sur des mois et qui pourrait changer complètement la perception des choses. Donc à ce moment-là, l'avion, on va dire que c'est un outil qui a du sens pour le commun, mais juste pour aller... une semaine dans un hôtel ou quoi, ça a moins de sens forcément.
Elle n'est pas ennuyante, cette vie où on se questionne surtout. Est-ce qu'elle est encore souriante? Est-ce qu'on peut être responsable sociétalement, environnementalement, et prendre du plaisir et s'épanouir dans sa vie? Ou est-ce que finalement c'est un truc un peu prise de tête tout de même?
Ben, c'est sûr que c'est marrant, il y a Aurel San là, sur son album, il a fait une chanson là-dessus... c'est Baise le monde, je crois, entre guillemets, et en fait c'est une chanson en fait où justement il fait la fête parce que lui il a réussi, Aurel San c'est une star, etc. Mais en même temps, en plein milieu de son, à chaque fois il se questionne, son verre de coca, son jean, il a été fabriqué avec 8 millions de litres et tout, 8 000 litres d'eau, et du coup c'est vrai que en fait ça c'est l'éco-anxiété aussi propre à notre génération, mais en fait ça on n'y peut rien parce que le fait de le savoir avec même Internet, etc., la diffusion du savoir qui s'est propagé, l'accès instantané presque à tout type de savoir, ben en fait, on... Alors à moins de le nier, parce que je parle aussi avec des copains qui ne sont pas forcément de mon... Enfin, on n'est pas obligé de tous penser pareil, mais j'ai un pote qui pense que la technologie va nous sauver comme ça, en un clin d'œil. Après, je ne sais pas, mais dans tous les cas, quoi qu'on fasse... Soit on peut ne pas le prendre en compte, mais c'est pas parce qu'on le prendra pas en compte que en fait la cocotte minute elle peut pas continuer de monter en température. Donc en fait moi vu comment c'est parti, je préfère déjà me dire j'ai envie de me passer des choses qui feront que bientôt déjà il y en aura plus, ou alors ça va empirer entre guillemets les choses. Mais après ça veut pas dire qu'on peut pas redécouvrir un autre mode de vie justement, et c'est ça qui peut être fun pour revenir à votre question, c'est de se dire par exemple avec Perrine, avant de se connaître, on a chacun voyagé assez loin, etc. Et ben, c'est de se dire, en fait, au final, des fois, le voyage, c'est peut-être plus une question de démarche que de destination. Comme on disait tout à l'heure, aller une semaine au Brésil pour aller dans un hôtel et revenir une semaine, et ben, ou alors prendre son vélo ou faire une rando dans les Alpes, par exemple, ou quitter sa maison comme on avait fait avec Perrine, c'était du coup un peu changement de mentalité. On est parti faire en vélo rando toute la côte d'Opale. 200 km, 5 jours, juste avec une tente et un vélo. Et ben, en fait, on avait l'impression de vivre un périple, parce que c'était une aventure, en fait. Le fait d'être en vélo et avec pas beaucoup, entre guillemets, de confort. On a fait des rencontres, on se serait cru au bout du monde. On était dans un voilier avec un Hollandais qui partait en Inde, en voilier, et on s'est retrouvé dans une soirée avec lui, en train de parler en anglais, allemand. Et ça, c'est des... Si on prend juste la photo de cette image-là, on se serait cru au bout du monde. En fait, on était à Boulogne. Et en fait, c'est une heure de voiture.
On peut se dire, la vie est belle, suffit juste qu'on la prenne du bon côté et qu'on soit responsable.
Bah ouais, c'est plutôt ce que j'ai envie de dire. Et après, aussi de ne pas non plus culpabiliser les gens. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est quand même... Si on prendrait vraiment le problème de manière globale, ce ne serait même pas une question individuelle, en fait. Ce serait une question d'État et d'entreprise. Parce qu'en fait, c'est là où il y a beaucoup plus d'impact. On voit bien un coup de Covid, une annonce télé, bim, plus personne travaille, alors qu'avant, c'était impossible, etc. On ne peut plus emprunter à l'Europe. Et là, comme par hasard, bah, c'est crédit limité. Enfin, vous voyez. Donc, c'est pas une question individuelle, normalement, ça. Mais bon, dans tous les cas, les gens le prennent, les instances gouvernementales ne le prennent pas en compte. Donc, on va devoir se l'approprier quand même. Parce qu'on voit aussi que, par exemple, même la mode du VG, entre guillemets, la mode ou la tendance VG, dans les années 2000, c'était 2-3% de personnes. Maintenant, ça arrive à 30%. Il y a même des grosses industries qui se mettent à faire des steaks VG alors qu'avant, ils faisaient de la viande. Donc, ça veut dire que si le consommateur, si l'individuel, beaucoup d'individuels changent, ça change aussi le système. Donc, c'est l'éternelle question économique. Soit c'est le système qui change les gens ou les gens qui changent le système. C'est un peu des deux, ça dépend. Et aussi d'arrêter de culpabiliser les gens parce qu'en fait, on ne peut pas être parfait. Le but, c'est d'aller vers un mieux. Si on veut. Après, y a des personnes ici qui nous disent « Ah bah moi aussi, j'aime bien l'écologie, je suis entre guillemets, mais je suis pas écolo, je prends ma voiture pour aller bosser. » Ben ouais, mais tu travailles où? À 30 bornes. Ben ouais, mais tu peux pas y aller en vélo tout le temps. Donc, je veux dire, à ce moment-là, si, c'est, je veux dire, c'est pas aux personnes non plus de porter le poids de tout le système. Et que si après, même au niveau des habitudes alimentaires, s'ils ont des habitudes ancrées depuis des années, ben, on peut pas changer non plus du jour au lendemain, mais du coup, nous, on essaie d'apporter ça de manière positive. C'est pour ça qu'on travaille les légumes du jardin, qu'on essaie de faire des... Comme là, c'est un burger VG avec pain maison, steak de haricots rouges maison et suprême d'épinards avec des potatoes. Bon, on le tourne en mode burger pour que les gens essayent, au moins. On peut mettre un supplément charcuterie, mais on le propose pas dans le plat, en fait. Dans la composition élaborée, il est pas dedans. Et si les gens vraiment ne peuvent pas faire sans, parce que des fois ça peut freiner une personne d'un groupe de quatre et du coup on veut pas que les gens soient lésés non plus. Donc on rajoutera une tranche de jambon ou du saucisson de la boucherie, mais de base on sait que nous avec l'impact carbone général du site, ça va la diviser peut-être par 10. Et au moins même le gars qui veut sa viande, bah, il aura testé notre steak de haricots rouges et peut-être qu'il aimera ça, la prochaine fois il en prendra.
L'écologie épanouie, heureuse, pas anxiogène, on l'aura bien compris.
C'est ça.
Dernière question, ici, maintenant, qu'est-ce qui t'émerveille encore dans ce site?
La nature, c'est clair que de voir, quand on monte sur la terrasse pour servir les plats ou les verres et que c'est le coucher de soleil, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois ce coucher de soleil là et aussi les gens en fait, les rencontres. Nous on voyage beaucoup là par les rencontres, en fait comme quand on fait des événements ou des chantiers participatifs, le fait de voir des gens qui sont venus de toute la France pour monter le bâtiment là, de tous milieux sociaux, des gens entre guillemets engagés et des gens entre guillemets complètement dans la norme qui peuvent travailler soit à Decathlon ou chez Adidas ou dans des collectivités territoriales, des gens vraiment... ou des profs, des gens de 50 ans, des gens de 20 ans, et de tous, en fait, on sent aussi que, et c'est ça qui m'a, où on était vraiment surpris, et à chaque fois, ça nous surprend de plus en plus, c'est de voir qu'en fait, il manque une pichenette, en fait. Les gens sont prêts, en fait. Les gens, ça fait 30 ans peut-être que les gens veulent vivre différemment, ils ont l'impression que c'est pas possible, et dès qu'on montre que nous, on le fait, eh ben, ils foncent, et ça, ça nous donne beaucoup de force pour la suite, quoi. On voit que ouais, ça, il manque une étincelle et dès qu'on propose quelque chose, dès que c'est déjà, on va dire, possible dans notre tête et sur le site, ben en fait, les gens, c'est possible pour eux aussi, quoi. Et ça fait vraiment plaisir.
La puce à l'oreille, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez toute l'actualité d'Écolande sur eco-land.fr. À bientôt.
La puce à l'oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 105.